Salut, tu écoutes Match Après Match.
C'est parti pour une heure d'émission. Comme chaque dimanche après la Super League, c'est votre talk 100% foot, match après match. Et de retour pour l'avant-dernier épisode de la saison. Dans mon salon ce soir, Giacomo Notari, Lucien Desnervaux et Hugo Imsand, qui est notre invité, qui arrive toujours avec des habits assez exceptionnels. On a eu le maillot de Servette à Noël. La dernière fois, je ne me rappelle pas, il y avait...
C'était Ibiza.
Ibiza, ouais. Et puis là, la Fiorentina des débuts des années 90, je crois.
C'est ça, 91-92.
Ouais. Les gars, vous auriez pu faire un effort. Hein. Franchement,
on n'a pas été prévenus.
Ils n'ont pas eu le mémo. Ouais.
Bon, si je vous dis penalty ce week-end, vous me dites quoi?
Je dirais fil rouge. Finalement, il y a eu tous les jours les penalties, les histoires de penalty qui ont eu plus ou moins d'impact. Je pense évidemment à ce qui s'est passé hier soir à Winterthur, mais aussi finalement cet après-midi, que ce soit à la Tuilière ou à la Suisse-Sport Arena.
Hugo.
On a pas mal parlé d'Yverdon, forcément, parce que là, il y a une implication directe sur même l'avenir des clubs, mais on va y revenir. Mais je pense que c'est beau d'un côté de se dire que malgré la VAR, le football reste sujet à débat et ne peut pas être tranché comme ça par une machine. Donc c'est ce qu'on aime aussi, finalement, sinon on s'ennuierait un peu.
Ouais, vous auriez pu aussi me parler du penalty raté de Marmouche hier en finale de la FA Cup à Red Anderson, Crystal Palace qui gagne son premier titre majeur et qui oblige City à faire une saison blanche. Vous auriez pu me parler du penalty de Touré, la Panenka, 99e minute avec Le Havre. Énorme conséquence dans la lutte pour l'Europe, énorme conséquence aussi dans la course contre la deuxième division, exactement. Et puis les quatre penalty à Lucerne aussi, deux pour Servette, deux pour Lucerne. Évidemment, le gros argument, les penalties dont on va beaucoup parler, c'est les penalties de la Schützenwiese samedi soir à Winterthur. En plus, je crois que Lucien et Hugo sont pas vraiment d'accord et on se réjouit énormément de ce débat. Ce sera avec vous. Rejoignez-nous sur notre page YouTube, ceux qui sont pas encore là. On a vu que certains sont déjà là. Vous avez évidemment beaucoup envie de parler d'Yverdon. Mais d'abord, on va faire un petit voyage à la Tuilière puisque Vincent et son équipe nous y attendent. C'est à vous, messieurs.
Daniel, on va parler de penalty à la Tuilière. Tu vas le voir, je suis en compagnie de Kevin Fickenscher, de Michael Bunion qui ont commenté ce match, nos deux commentateurs. Messieurs, histoire de penalty peut-être qui a paru très anecdotique dans ce match nul au final, à la 5e minute. Moi, j'ai commencé par Kevin. Kalisen qui se fait retenir dans les 16. Pas d'intervention de la VAR malgré la colère du banc lausannois.
Non, et cette colère est justifiée pour moi. Si tu me demandes mon avis, pour moi, il y a penalty. Et c'est vrai que l'intervention ou la passe d'intervention de la VAR a été pour moi bizarre. L'arbitre n'a même pas été rechecké la scène. Mais pour moi, il y a clairement penalty parce qu'on voit clairement que le joueur luganais accroche Kalisen.
Ouais, c'était aussi l'avis en plateau. Michael, tu as vu un match plutôt bon du LS au départ qui s'est terminé un peu en eau de boudin, pour employer une expression hyper moderne.
Sur cette semaine, c'est vrai qu'on voit un LS qui fait deux bons matchs. Il y a eu le match contre Bâle, le match aujourd'hui contre Lugano. Il y a finalement qu'un point sur six possibles. Aujourd'hui, très bonne entrée de match. Il y a 10 minutes un peu compliquées en fin de mi-temps où on se dit il y a la sortie de Mwanga qui change quand même pas mal de choses. Ndiaye qui rentre, faut trouver des automatismes. J'ai trouvé que ça avait quand même chamboulé pas mal de choses. Ndiaye a fait une bonne entrée, c'est pas ça le problème. Mais je pense quand même que la mi-temps est venue au bon moment pour Lausanne. Lausanne a de nouveau fait un bon début de deuxième, mais c'était peut-être pas, il y avait peut-être pas ce petit truc en plus, l'Agnac, pour vraiment aller chercher les trois points. Il les voulait plus que Lugano, mais ils se sont aussi dit attention, si on perd aujourd'hui, on n'aura plus notre destin en main pour le dernier match.
Ouais, ils ont encore en effet leur destin en main, les Vaudois. Et un truc que tu as vraiment relevé en première mi-temps, Kevin, c'est l'attitude. C'est vrai qu'on a senti une équipe de Lausanne concernée. Ludovic Magnan l'a aussi relevé, il y a eu cette qualif pour le top 6, ils n'ont pas arrêté de se battre dans les matchs et c'était encore le cas aujourd'hui.
Non, et il ne faut pas oublier, c'est une saison longue. C'est une saison longue et il reste deux matchs. Et moi, ce qui m'a fait... Ouais, il en reste maintenant plus qu'un, c'était l'avant-dernier. Mais où j'ai envie de relever ça, c'est l'attitude de Lausanne, notamment une fois de Poitiers qui vient faire un tacle assez anodin, mais qui le fait comme si c'était presque un but. Et ça démontrait toute l'envie de cette équipe de Lausanne d'aller chercher ses trois points. Malheureusement, aujourd'hui, ça n'aura pas suffi, mais je pense que s'ils vont dans ce même état d'esprit à Servette, ils peuvent aller chercher quelque chose.
Je rebondis peut-être juste, tu parles de longue saison, elle était encore plus longue pour Lugano et ça s'est vu et ça se voit vraiment dans ce tour de Championship Group, parce que 55e match aujourd'hui, il y a des joueurs qui sont complètement cuits, qui ne jouent même plus d'ailleurs, on ne sait pas s'ils sont vraiment blessés, des Stephen, des Maï qui ne sont même plus là sur le terrain, il y a énormément de tournus, Crocci Torti ne trouve pas vraiment la formule en cette fin de saison, donc je pense que pour Lugano, par contre, c'est un très bon point. aujourd'hui accroché à la Tuilière.
Ouais, mais Lausanne, il faut vous rappeler, hein, le top 6, c'était l'objectif annoncé en début de saison. Ils l'ont atteint. Et tout ce qui vient maintenant, bah, c'est quand même du bonus. On n'a pas l'impression. Mais bien sûr, ils veulent pas terminer 6e. On est d'accord, 6e, c'est la pire des places. Mais avec ce point, ils sont 5e maintenant. Il y a possibilité de défendre cette place européenne.
Oui, et je pense que si tu demandes à Ludomania en début de saison s'il signerait pour ce scénario-là, il l'aurait tout de suite fait, j'imagine. Donc pour moi, c'est une bonne chose. Et de pouvoir jouer un dernier match, un derby en plus, donc par rapport à ça, c'est quelque chose d'intéressant pour eux. Et comme je te dis, pour moi, s'ils mettent cette même envie, cette même détermination qu'ils ont démontré aujourd'hui, ils peuvent aller remporter les 3 points du côté de Genève.
Dernière chose quand même sur ce match, Mickaël. Toi, tu deuxième mi-temps, t'as dit attention. Lausanne ne doit pas se laisser endormir par ce Lugano. Et je crois quand même que Lugano a un peu endormi Lausanne en fin de partie.
De manière générale, oui. Mais moi, ce que j'ai bien aimé, c'est la réaction de Ludovic Magnan. Quand il a senti que son équipe allait être une première fois endormie, il a changé un petit peu sa tactique, enfin même complètement. Il est passé en 3-5-2, il a fait rentrer Fofana en position de piston gauche. Ça a complètement changé la physionomie du match pendant une dizaine de minutes. Et après, de nouveau, j'ai senti que Lugano avait réendormi un tout petit peu, Lausanne. Mais finalement, je pense que voilà, tout le monde est content au final quand même avec ce point, même si on a vu Lausanne déçu dans les tout derniers instants.
Moi, j'ai vu plutôt un Lugano content, ouais. Certes, mais un Lausanne déçu. Et il ne faut pas oublier que Lugano a quand même une expérience, je pense, un peu plus élevée par rapport à Lausanne dans les gestions de ces matchs. Et pour moi, bah, je te rejoins totalement. Ils ont coupé un petit peu le rythme de cette deuxième mi-temps. Ils l'ont bien fait et ça a déstabilisé un petit peu Lausanne de ce côté-là.
Ce qu'on retiendra, messieurs, de ce match, c'est que les deux équipes ont encore leur destin en main. L'équipe qui est un peu en difficulté maintenant, c'est Lucerne. Lucerne qui ira jouer à Bâle. Bâle qui aura envie, évidemment, de finir cette saison sur une victoire avec le lever de la coupe.
Merci beaucoup, messieurs. On réagit à vos propos. On a partagé ce que vous disiez, en tout cas sur le terme de, sur le plan de l'envie. Ça, on peut le dire. Lausanne avait envie, mais moins de tranchants et pas forcément assez d'efficacité.
Ouais, pas assez d'efficacité, je pense que ça c'est le bon mot. Il n'y a pas eu non plus d'énormes occasions, mais par contre, c'est vrai que tu as plein d'espoir. Tu te dis, ah, ils sont enfin, ils sont dans ces 20 derniers mètres. Il y a le centre, mais il n'y a pas la tête, il n'y a pas le geste final qui fait que derrière, ça ne passe pas. Après, ils sont toujours dans la course, ça je le maintiens encore. Je l'ai déjà dit aussi, c'est qu'ils sont sauvés à la dernière journée pour jouer dans le top 6, pourquoi pas la dernière journée pour jouer l'Europe. Donc du moment que mathématiquement c'est possible, il faut toujours y croire.
Mm-hmm. Surtout qu'il y avait la place là contre Bâle, qui avait encore la gueule de bois mercredi, et là Lugano ils sont complètement cuits. Donc il fallait faire plus qu'un point, ça c'est clair.
Un point sur deux matchs. Après moi je me méfie toujours de ces équipes bis. Hein. Moi quand j'ai vu la feuille de match de Bâle, t'as quand même des joueurs qui ont envie de montrer qu'ils ont leur place de titulaire, certains qui ne savent pas s'ils seront toujours là ou pas, qui peuvent donner des messages à leur coach et à leurs dirigeants.
Non, bien sûr.
Donc, je me méfie toujours de ces deuxièmes équipes, ouais. Mais je suis d'accord avec toi, il y avait de la place.
Ouais, on sentait vraiment qu'ils étaient un peu pas vraiment là, ils n'étaient pas très sérieux, un peu sur le banc, ça rigolait beaucoup, tu sens qu'ils n'étaient pas hyper mobilisés. Et puis, en fait, ce que IB fait aujourd'hui, c'est ce que Lausanne aurait dû faire mercredi. Pas besoin d'en mettre autant, mais je veux dire,
voilà,
ils ont réussi à tuer, à maîtriser le match contre un Bâle qui devait être à peu près dans les mêmes conditions.
La différence, c'est un peu l'histoire de cette saison, c'est que offensivement, il y a de l'envie, on sent les intentions, mais c'est difficile à conclure, surtout depuis que Sanchez n'est plus là, même si Sanchez n'est pas la solution à tous les problèmes offensifs.
On s'est souvent dit ça, Dani, mais je pense que d'autant plus avec ce qui s'est passé mercredi à Bâle, aujourd'hui, Lausanne avec cette frustration globale doit être capable de prendre ce Lugano amorphe, de prendre le taureau par les cornes et franchement de se faire un match tout en descente. Après, certes, t'encaisse le but sur un pénalty qui sort de nulle part, c'est un épisode. Mais voilà, ça montre quand même certaines limites. Et une de ces limites, forcément, et c'est revenu beaucoup tout au long de la saison, c'est offensivement être capable de transformer ces occasions. Si on regarde le but aujourd'hui, c'est quand même, en bonne partie, je trouve, un exploit individuel de Diabaté. Il n'y a pas beaucoup de joueurs à Lausanne qui sont capables de prendre le ballon, de l'ajuster comme ça. Donc, il n'y a pas eu non plus, une telle assise qu'il aurait pu avoir face à un adversaire qui, franchement, je pense pas que dans le Championship Group, mais même sur les 12, c'est un des meilleurs adversaires à affronter aujourd'hui si tu veux faire des points, quoi.
On a parlé de l'attaque en défense. Ce sera à Servette samedi. sans Dusan, sans Mwanga.
Ouais, c'est clair, il y aura quelque chose à faire. Après, on ne parle que d'un match, on ne parle pas de plusieurs matchs. Je veux dire, So, il a assez souvent joué, donc ça, il y aura automatiquement lui. Et puis le deuxième, bah, il faudra voir, il a essayé aujourd'hui avec Ndiaye. Donc il faudra voir comment ça va se passer. Mais il faut profiter de ce moment. Et puis c'est sur ce match-là que ça peut être très intéressant. Il faut booster le joueur qui devra ben, prendre ce lead.
Comment tu fais ça?
Ben, tout simplement en le préparant, en le parlant. Et puis il n'y a rien de mieux, quoi, je veux dire, par rapport au match. C'est sortir cette pression et puis plutôt d'en profiter. Et puis de dire, ben, ça peut être que beau, profite de ces moments. Après, ça dépendra quel joueur c'est, hein, évidemment, qui jouera. Mais tu peux être capable. Ça reste quand même un pro qui va devoir jouer. Et puis, ben, il va devoir profiter de ce match. Mais c'est vrai que j'espère, en tout cas pour Lausanne, qu'ils vont pas se planter sur ça. Parce que ouais, c'est comme tu disais avant, Lugano, ils doivent les avoir. Ils doivent les avoir. C'est une équipe qui est amorphe. Elle est plus présente. On voyait Maciek, à partir de la 70e minute, il était couché pendant 3 minutes chaque fois qu'il recevait un coup. Ben voilà, il voulait casser le rythme. Mais et il l'a bien fait.
Mais est-ce que c'est pas avant le 1-1 qu'il fallait essayer d'aller tuer le match? Sur le 1-0, tu mets le 2-0. Si tu joues contre une équipe qui est amorphe, bah tu la tues dans la première demi-heure en prenant ce deuxième but.
Clairement, surtout que t'as pris l'avantage le premier, et en plus ça me fait penser au match juste avant le Championship Group où t'accueillais un Lugano, le Lugano d'il y a 3 semaines qui était déjà pas bon du tout, mais maintenant il est encore pire. Donc paradoxalement t'as pas réussi à faire le job et tu peux regretter voilà, de pas avoir mis un deuxième but coup sur coup après l'ouverture du score de Diabaté.
Lugano a endormi même les supporters, superbe match, nous dit Robin Gallet.
Ouais. Mais il y a aussi même le penalty de Callison hein, dans cette optique là, si tu l'obtiens, parce que tu dois l'obtenir, s'il est accordé, ça peut aussi changer un peu la suite du match. Quoi.
Absolument.
Et après, pour dire quand même, parce que c'est vrai que plus les minutes avancent, ben, plus la fin de match arrive aussi. Et ça permet justement, ben, un match, je l'ai dit avant, ben, de casser le rythme, de couper le rythme. Mais évidemment qu'un deuxième but, il aurait toujours bien passé parce que ben, tu prends de nouveau l'avantage. Et puis c'est à l'autre équipe de se découvrir. Puis tu aurais pu peut-être aller soit mettre un compte, soit ben, garder ce résultat. Mais c'est vrai qu'il y avait quelque chose à faire aujourd'hui. Moi, je regrette moins le match de contre Bâle, mais plutôt celui d'aujourd'hui contre Lugano.
Allez, on va écouter les déclarations du capitaine du Lausanne Sport.
Olivier Custodio, on imagine quand même de la déception au terme de ce match. Vous avez mis l'énergie, mais à la fin, il n'y a qu'un point.
Ouais, c'est, comme je dis avant, c'est un sentiment un peu mixte, parce que voilà, on fait quand même un point dans la position où on est. On fait un pas en avant. On aurait voulu les 3 points. Je pense qu'on l'a montré aujourd'hui qu'on voulait absolument les 3 points. On a été la meilleure équipe sur le terrain dès la première minute. Et voilà, c'est dommage. On a vu que Lugano était venu là pour défendre ce résultat en deuxième mi-temps. Et voilà, on n'a pas réussi à trouver la brèche en deuxième mi-temps pour marquer ce deuxième but.
Il y a ce petit blanc de fin de mi-temps en fait qui vous, au final vous coûte très cher.
Ouais, c'est clair, parce que voilà, on a mis beaucoup d'énergie, comme j'ai dit, on a mis beaucoup d'énergie dès le début du match, beaucoup de courses, beaucoup d'intensité. On voulait vraiment aller chercher cette victoire. Et après, c'est clair, on peut pas tenir 45 minutes au même niveau d'intensité. Et voilà, je pense qu'après en deuxième mi-temps, on est reparti avec de bonnes intentions. Mais voilà, comme j'ai dit, avec un bloc bas de Lugano, ça a été difficile de trouver les solutions pour marquer ce deuxième but.
Vous l'avez dit, hein, c'est un point au final et c'est un point qui vous fait gagner une place au classement, une place qu'il faudra absolument défendre lors du prochain match à Genève.
Ouais, c'est clair, mais voilà, comment ça va avant ces 5 matchs, on voulait tous les gagner, donc là, ça change rien du tout. On va aller à Genève pour gagner, en plus c'est un derby, et voilà, on veut finir la saison en beauté, et voilà, il va falloir faire un grand match samedi prochain.
Voilà pour les déclarations d'Olivier Custodio. On réagit rapidement, messieurs, à un commentaire sur YouTube. Commentaire de Jean-Pierre qui nous dit qu'on ne respecte pas Lugano, qu'on est trop dur avec Lugano. Moi, je crois que c'est plutôt le contraire. Justement, c'est qu'on a énormément d'attentes sur ce Lugano-là, que Lugano nous a même fait croire à un moment donné cette saison qu'il était un sérieux prétendant au titre, et que c'est respecter Lugano que de dire que c'est une équipe qui s'est écroulée et qui était amorphe aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
C'est la réalité. À Noël, ils sont combien termes?
Premier.
Ils sont premiers.
Ils sont premiers.
On était avec Giacomo encore sur place quand il y avait Lugano-Lausanne. Ils se sont fait battre sur ce match-là, mais ils étaient premiers à Noël. Donc c'est normal qu'il y avait de l'espoir. Quand tu as fait 4, 3, 2, et puis tu es premier à Noël, tu te dis, ben, c'est bon, on est lancé. Et au contraire, il faut une année 2025 très difficile. Donc c'est pour ça que ce n'est pas à manquer de respect, c'est tout simplement qu'on s'attendait à avoir le même Lugano de 2024 ou des années précédentes.
Effectivement.
Mais pour moi, ils payent aussi les voyages, les matchs en Coupe d'Europe. C'est Ferrari, ils ont joué 14 alors qu'ils se font éliminer en 8e de finale. Avec deux voyages en Turquie, Serbie, en République tchèque, sauf erreur. Donc c'est aussi vraiment des effectifs qui sont trop courts pour jouer et le titre et une campagne européenne.
Mais ils ont aussi beaucoup de blessés.
Oui,
ils se font sortir de manière pas scandaleuse, mais...
Honteuse.
Mais
on peut dire presque, après par ça, quand tu sors contre Célier et que tu mènes et tu t'es saboté tout seul parce que tu dois aller en quart de finale.
Moi, j'aurais dit traumatisante plutôt. Je pense que ça fait partie du traumatisme de la suite et la fin de la saison. Parce que tu te fais. C'est vraiment traumatisant. Ta sortie là sur penalty, la séance des tirs au but, t'as mené, t'avais l'impression d'être déjà qualifié. Et on se souvient que Servette, la saison dernière, avait aussi finalement un peu dégringolé, flingué sa fin de saison après s'être fait sortir en Conference League, aussi au tir au but d'ailleurs, si je dis pas de bêtises.
C'est vrai, mais après, ce que je trouve, en tout cas aussi, on parlait de peine offensive de Lausanne, mais Lugano, c'est Koutsias qui est devant, un Stephen, quand même vraiment moins bon en 2025. C'est lui qui a souvent fait la différence à Lugano. Hein. Et puis là, il était vraiment moins bon. Et c'est vrai qu'offensivement, il a beaucoup manqué à Lugano. D'ailleurs, Croci Torti l'a toujours dit, hein, il a besoin d'un attaquant. Il n'a jamais été remplacé, Cellar. Et ça a été compliqué derrière.
Je pense que c'est facile de le dire aujourd'hui, mais en fait, on peut dire que Lugano a refusé le titre quasiment cet hiver, parce que quand tu es sur trois tableaux, tu sais que tu as un Stephen qui surperforme, que tu es t'es vraiment au top du teuf, parce que tu es en Coupe d'Europe, en Coupe Suisse et premier du championnat. Tu as besoin, forcément, parce que tu sais que la saison est encore longue, sur trois tableaux, et que ta seule recrue, c'est un attaquant de 19 ans, 20 ans, Koutsias, qui au final a quand même performé peut-être au-dessus des attentes, mais c'est ton seul. C'est clair que tu peux pas être armé quand tu vois ce que font venir surtout les concurrents. Que ce soit à côté balois ou côté
même à Berne,
côté Bernois justement, Fasnacht, Bedia, enfin c'est, il y avait pas photo, Ravelosson, il y avait pas photo.
Flavio te demande, Hugo, où tu as acheté ton maillot. Je pense qu'on peux le dire, tu peux pas le dire.
Ben comme les journalistes ne donnent jamais nos sources, du coup
c'est très bien. Faudra contacter Hugo sur les réseaux sociaux en privé pour ça. Robin me demande, penses-tu que le LS peut aller chercher un huitième de finale en Conference League si qualification il y a? Ouais, alors on va déjà attendre de voir si Lausanne se qualifie pour la Coupe d'Europe et puis ensuite on verra bien. Je vous propose de passer à Servette. C'est le prochain adversaire des Lausannois, Servette, qui a gagné à Lucerne aujourd'hui sur le score de 4-3 et qui garde surtout son statut de dauphin. C'était important aujourd'hui.
C'était important, c'est sûr. Donc là, ils ont fait un bon match, même s'il y a eu une petite frayeur quand même sur les dernières minutes. Mais ils ont fait un match sérieux, je trouve, Servette, aujourd'hui. Ils ont su réagir, rebondir, j'ai envie de dire même, par rapport à ce qu'on attendait d'eux. Mais ce qui est frustrant chez Servette, en tout cas moi, c'est la frustration que j'aurais, c'est que quand il y a le titre en jeu, ben, c'est là où on les attendrait un peu plus. Et puis tout d'un coup, ils lâchent au mauvais moment. Et puis quand il y aurait une deuxième ou troisième place pour eux, on se contentera de ça, évidemment. Mais pourquoi pas plus? Pourquoi pas plus? Et c'est dommage d'être passé à côté. Ils étaient quand même promis en championnat à un certain moment aussi. Et puis, pas à Noël, hein, mais beaucoup plus tard. Et puis, ils n'ont pas su le garder. Donc, moi, c'est un petit peu ça que j'ai. C'est frustrant, en fait, je trouve.
Moi, je vois quand même le verre à moitié plein sur cette semaine anglaise. Surtout, qu'on vient de parler du Lausanne Sport, il y avait deux fois la place. Ils sortent avec un point. La Servette a affronter deux adversaires, un premier adversaire mal en point, Lugano, ils ont gagné facilement. Et ce week-end, ils ont affronté un Lucerne qui, franchement, a très peu proposé. Et ils sortent avec 6-6. Tout ça après avoir subi le coup dur en début de Championship Group avec cette défaite contre Bâle qui a été synonyme d'adieu au titre. Donc, moi, j'ai quand même apprécié la réaction des Grenats, même si je peux rejoindre Lucien dans le sens dommage que tu ne réagis pas comme ça avant, mais oui, ce n'est pas les mêmes adversaires.
C'est différent parce que Lucien voit une situation globale. Toi, tu vois plutôt la situation
à court terme.
Sur cette semaine, court terme, 6 points sur 6 possibles, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai beaucoup aimé la première mi-temps de Servette. Aujourd'hui, vraiment une première mi-temps très très aboutie, très sérieuse. Intéressante, franchement. Sérieuse. On est d'accord. Et bah, peut-être pour toi, Hugo, cette question-là. On sait que tu as beaucoup d'amis à Genève, surtout sur les réseaux sociaux. Non, mais ouais. Cette équipe de Servette, elle va quand même vachement changer, vachement évoluer. Cet été, il y a des départs qui sont prévus. Ça veut dire que ça va de nouveau beaucoup bouger. Et c'est peut-être là où, de là d'où vient la frustration de Lucien. C'est-à-dire que tu ne peux pas continuellement construire et puis être compétitif sur l'ensemble de la saison et aller au bout.
Mm-hmm. Bah, surtout vu que les résultats des ventes ont été, ont pas pu être réinjectés dans les recrutements ces dernières années, ça risque de changer. Donc j'espère pour les Servettiens qu'ils vont pouvoir avoir un peu plus d'ambition aussi dans le recrutement. C'est vrai qu'il y a quand même 2-3 heures de casting cette année. Mais bah, c'est Eberly plus dans la forme aussi, dans le manque d'ambition dans le jeu et cette prudence, même aussi dans son langage corporel ou dans ses déclarations. Et puis, ouais, c'est ça qui m'a manqué. C'était très protestant, très calviniste comme ça. C'est pile au moment où ça s'est un peu grippé.
Je pense que c'est pas une mauvaise chose, moi, ce nouveau cycle. Je suis assez curieux de voir parce que à la fin, on sait pas à quel point ça va être bouleversé l'effectif. On sait qu'il y a des cadres qui seront plus là, à commencer par Kuteza et Crivelli. Ça, c'est des départs déjà confirmés. Après, il y a d'autres joueurs qui auront du marché, Tsunemoto, par exemple. Moi, je suis assez curieux, franchement, de voir cette potentielle nouvelle page qui s'ouvre, à quel point ça sera une nouvelle page, à quel point ça sera un nouveau livre. Mais voilà, on a souvent dit que ce Servette, on sait de quoi il est capable. Chaque année, ben, mine de rien, il est là où il doit être, mais il manque ce petit quelque chose. Voyons maintenant avec ce relooking, que ce soit qu'au niveau des joueurs ou aussi au niveau de la direction. Je sais pas, j'ai entendu passer aussi le nom de Gérard Bonneau qui pourrait revenir au niveau du recrutement. Voilà, il pourrait y avoir pas mal de nouveautés à Genève cet été.
J'aime bien parce que tu dis cette nouvelle page qui s'ouvre et pas qui se tourne. Donc pour moi, c'est en tout cas linguistiquement parlant, si le terme est vraiment celui que tu voulais utiliser, je trouve ça très intéressant. Giotto Morandi, dont on parle aussi beaucoup, qui peut être vraiment, vraiment un très, très bon coup sur le mercato. On en parlait déjà en janvier. Là, il ne joue plus à Getse. Giotto Morandi, franchement, même s'il y a Antunes là au milieu, mais c'est ces leaders-là dont tu as besoin le Servette FC.
Oh, c'est des joueurs qui peuvent apporter évidemment une plus-value au sein de l'équipe. Après, il faudra gérer évidemment, parce qu'on sait très bien que quand on a Antunes, il est à 100%, il n'y a personne qui peut lui passer devant.
Mais je te coupe, mais c'est bien d'avoir un Giotto Morandi quand tu ne peux pas compter sur Antunes, voilà. Parce que c'est là que c'est pour moi là qui manque quelque chose à Servette.
Bah, surtout qu'il y a eu ces blessures qui ont aussi pénalisé Servette à ce moment-là, donc le manque de profondeur au printemps a clairement fait du mal. Mais Eberly qui est prolongé du coup d'une année parce que Servette est dans le top 4, mais j'ai quand même pas l'impression qu'il y a un enthousiasme incroyable. J'étais pas au match, mais Daniel Vicentini dans la tribune disait que justement quand il apparaît sur grand écran, il y a un peu pas des sifflets, mais on sent un petit énervement, une frustration aussi sur les réseaux. On voit pas mal de supporters un peu s'énerver contre
les mêmes qui s'énervaient contre toi à une époque de la saison où t'es venu nous voir, où tu disais que t'étais pas enchanté par le jeu du Servette FC.
Et j'ai dit que ça pouvait pas suffire pour être champion, et visiblement j'avais raison.
Ouais. Mais c'est drôle parce qu'effectivement, quand on échange avec les supporters, eux-mêmes le disent. Alors, ils s'attendaient à ce que Servette puisse jouer le titre, pas tous, hein, mais certains, à ce que Servette joue le titre. Mais il y a aussi un peu un downgrade en termes de plaisir à voir cette équipe jouer. Et ça, c'était cool avant, moi, je trouve.
Ben, on sait déjà, c'est toujours les mêmes discours, mais le public genevois, il est difficile à convaincre. Et puis, si plus longtemps tu joues le titre, plus tu as de chances de remplir ton stade ou de, disons, le garnir le plus possible, parce que remplir, c'est compliqué. Mais voilà, c'est clair qu'après, si aussi au niveau du style, voilà, tu n'as pas des matchs forcément emballants, renversants, ça devient encore plus compliqué. Et puis, je comprends qu'il y a un certain scepticisme sur Eberly. Après, je comprends aussi que le club lui donne sa chance. Ça serait aussi compliqué de dire pourquoi il part. Je me souviens, Geiger, il avait aussi été pas mal critiqué sur ses 6 saisons, avec Servette, et quand il était parti, il y a même des gens qui disaient, mais en fait, maintenant, pourquoi il part? Il a fait la deuxième place, alors que c'était les mêmes personnes qui, pendant 5 ans, disaient, purée, bon, c'est un peu vieillot, c'est quand qu'on change.
Bah, donc, c'est aussi la magie, enfin, c'est pas la magie, c'est pas le bon terme. Le supporter est comme ça.
Bah oui, c'est l'histoire du foot.
Et il faut pas oublier une chose, c'est que souvent, quand on fait ces réunions dans ce salon, pas seulement nous, hein, mais les journalistes en général, on parle du moment. Tu peux dire en septembre quelque chose et puis tout à coup t'es en mars, en avril, en mai, et forcément une situation change au cours de la saison, et tu peux très bien reconnaître aussi que la situation a changé et que c'est maintenant que tu te retrouves à donner une version différente de ce que tu disais 6 mois auparavant. C'est aussi le foot.
C'est un contrôle continu, ah oui. Le foot, donc c'est bien normal sûr. De changer d'avis, d'analyser à propos de la réalité à l'instant T.
Question de Grégory. Moi, je n'ai pas d'infos, mais par rapport à Eberly, par rapport aussi à Weiler, il y a une question. Weiler va partir pour être remplacé par Bono. Moi, je n'ai pas d'infos. Hugo, je ne sais pas si tu en as une.
Moi non plus, mais Daniel, justement, mon collègue dans la tribune, disait que parlait de Bono.
Oui.
Donc, à savoir, est-ce que ce sera un poste de recruteur avec un directeur sportif au-dessus de lui ou
est-ce que c'est pour remplacer.
Moi, j'ai pas plus d'infos.
Morandi, 5 buts, pardon, 6 passes. Waouh, super renfort pour Servette avec ce joueur qui affole les stats en Suisse. Je ne sais pas si c'est de l'ironie, mais en tout cas, moi, personnellement, Morandi, je signe. Quoi. Morandi, c'est un joueur qui est précieux sur les balles arrêtées. C'est un joueur qui connaît le championnat. Ouais. Et honnêtement, pourquoi aller chercher un joueur à l'étranger quand tu as ce genre de joueur-là?
Non, je suis d'accord, il parlait de lui déjà en janvier. Ça aurait été bien de l'attirer à ce moment-là. Parce que
justement... Ndengue aussi.
Ouais.
Les deux auraient été géniaux. Ouais. Ouais. Donc, ça aurait pu permettre à Servette peut-être.
Et à mon avis, il ne tombe pas de nulle part ce recrutement parce que j'ai vu les statistiques l'autre jour quand je préparais le match de Servette IB. C'est une des équipes qui a marqué le moins de buts de la tête. Donc aussi une des équipes qui a marqué le moins de buts sur balle arrêtée, le Servette FC. Et quand tu as un Morandi... Il dépose à tous les matchs, il va te déposer des galettes. C'est comme un Gurgic à Lugano. Et sur une saison, ça peut te rapporter 3, 4, 5 points. Et voilà, ça change tout à la fin.
Ouais, c'est un joueur qui fera très probablement du bien, pour autant qu'il ait bel et bien signé. En tout cas, ça sent plutôt bon. On attend que ce soit officialisé. Je vous propose d'écouter deux intervenants au terme de la rencontre à la Swiss Sport Arena. Nicolas Menec nous a envoyé ceci.
Il avait 3-0 et puis on voulait faire encore quelque chose pour le goal d'un virage parce qu'on savait que le résultat était IB. On a maîtrisé le jeu, on a bien laissé courir l'adversaire, on a trouvé les espaces. Et puis on peut toujours encore faire mieux, mais je crois que c'était quand même assez bien. Mais il faut quand même aussi oublier le penalty à nous aider au début. Et puis oui, il faut être encore plus concret dans le box, on doit faire mieux, on sait, mais quand même c'était bien.
Et dans la circulation du ballon, j'ai trouvé personnellement Servette très bon, beaucoup de solutions proposées par les différents joueurs.
Oui, c'est clair, j'ai toujours dit, il y a toujours des joueurs qui sont importants pour ça. Et puis dès qu'on a ensuite Alexis, 2-3 matchs ensuite, ça nous aide beaucoup. Timo sait qu'il est très très fort. Et puis malheureusement cette saison, il y a des joueurs qui en manquent beaucoup trop. Et puis, on sait que si les terrains sont bien, et puis si on a tous les joueurs au bord, on sait jouer au foot, et puis c'était top aujourd'hui. On veut être le plus haut possible au tableau, ça on a vu aujourd'hui, l'équipe a montré beaucoup d'ambition, et puis ce match à la maison dernière, c'est top, c'est un derby, je crois, on nous réjouit, j'espère qu'il y a beaucoup de spectateurs.
Depuis un moment, c'est pas très glorieux sur le terrain, mais on essaye d'être positif, on essaye de faire notre jeu et voilà, aujourd'hui ça nous a souri et on espère que ça va nous sourire aussi pour le dernier match à la maison.
Justement, jolie finale pour la deuxième place, pas confrontation directe, mais contre un grand rival du club.
Voilà, c'est un dernier match à la maison, un dernier match pour le championnat, un derby contre Lausanne. Il faut les gagner, donc nous on est prêts et on attend ce match avec impatience.
19h58, place au dessert de ce match après match. Un dessert plus amer que sucré. On parle évidemment de la rencontre de la Schützenwiese entre Yverdon et Winterthur. C'était samedi soir, 2-2 au terme de cette rencontre un peu folle qui est partie dans tous les sens, surtout en fin de rencontre. Je vous propose le match dans les conditions du direct et on en parle après.
Avant la défaite face à Zurich. Attention, ce centre bien fait. Le but de Marquezano. La climatisation ici à la Schützenwiese pour ce but yverdonois. Marquezano, qui d'autre que lui? Marquezano, ouais, c'est bien fait ça sur Baradji. Baradji, le centre, le ballon sur Ake, la frappe, ouais, c'est 2-0 pour Yverdon. Le deuxième but pour les Yverdonois. Il est incroyable aujourd'hui, il fait la différence dans les 16 mètres. Pour tirer ce coup franc, va-t-il la tenter directement? Dit Giusto, oui, avec la frappe, la balle. Et le but! Quel but de Matteo Di Giusto! La trajectoire qui trompe Paul Bernardoni visiblement puisqu'il avait l'air d'être dessus. Fry pour botter ce coup de pied de coin au deuxième poteau. La remise dans l'axe, c'est pas terminé. Le ballon qui traîne dans la surface, la sortie de Bernardoni. Et on donne un pénalty. Il donne un pénalty pour la sortie de Paul Bernardoni. Je suis pas certain.
Non, mais là, il n'y a rien. Enfin, il n'y a pas rien, mais Monsieur Wolfensberger qui semble donner ce penalty, ouais. Roman Bouez pour l'égalisation. La parade. La parade de Paul Bernardoni qui maintient les espoirs au jeu. Incroyable, Paul Bernardoni. Il reste deux minutes dans ce temps additionnel. La tête de Tijani. Penalty. Penalty pour Victor Tour, incroyable.
C'est quand même une connerie, il est au deuxième poteau, il n'est pas vraiment dans le... Ah là là là.
Est-ce que Bouès lui tient le bras peut-être aussi un peu? Fabien Frey face à Paul Bernardoni. Fabien Frey face à Bernardoni. Ouais, c'est au fond. C'est au fond Bernardoni qui était resté au milieu du but. Mais qui ne pourra pas toucher ce ballon. C'est Boté dans la boîte, la tête. C'est juste à côté.
C'est aussi Marquez, je suis pas sûr.
C'est juste à côté, c'est Marquez.
Ah non, c'est pas vrai.
C'est Marquez qui manque ce coup de tête et il peut s'en vouloir.
J'ai compris depuis que c'est ici que c'est très facile de siffler contre Yverdon. On est petit, je sais, mais il faut respecter quand même le travail de l'équipe. Parce que nous, on vient tous les jours là à l'estade à travailler beaucoup. On se casse la tête chaque jour ici. Et à la fin, comme ça, c'est facile de donner un pénalty contre Yverdon parce qu'on est petit, c'est facile, je sais. Mais il faut savoir aussi qu'il faut nous respecter parce qu'il y a beaucoup de travail derrière. Il y a des choses que tu peux donner, peut-être c'est pénalty, peut-être pas. Mais la chose, c'est sûr que quand c'est peut-être, c'est contre nous. C'est toujours comme ça.
En début de match, il vient nous voir, il nous dit que c'est une finale. Il donne 3 pénaltys sur un match comme ça, c'est inadmissible. Je pense que la Ligue, elle doit bien réfléchir à mettre des bons arbitres pour ces matchs-là parce que nous, on joue notre avenir dans la Ligue. C'est important pour nous, pour les supporters qui ont fait le déplacement et c'est inadmissible ce qui s'est passé ce soir. Alors ces explications, c'est des contacts, mais dans les deux surfaces ce soir, il y a eu des contacts. Mais bon, si au début du match, il nous dit qu'il veut faire gagner Winterthur, qu'il nous le dise, hein, nous on va pas lâcher, on va se battre, mais qu'il nous prévienne la prochaine fois et qu'il mette un maillot rouge.
Les réactions à chaud, c'était samedi soir, juste après la rencontre de William Le Pogam et d'Antonio Marquezano. Des propos qu'on a rarement quand même entendu, prononcés à la télé, dans la presse, on les a lus aussi aujourd'hui. C'est des mots forts, est-ce que vous les comprenez?
Oui, parce que, surtout au vu du contexte du match, en fait, moi j'étais personnellement présent à la chute de Senvisé, c'était de la folie. Les 15 dernières minutes, les 20 dernières minutes, quand Yverdon avait encore cet avantage et que le chronomètre avançait, mais la zone technique d'Yverdon, Paolo Tramezzani ne tenait pas en place. Il y a ce premier pénalty repoussé par Bernardoni. Ensuite, il y a ce deuxième pénalty annulé. Il y avait une telle tension. On voyait Tramezzani donner des consignes à ses joueurs. Franchement, ils étaient vraiment sur le qui-vive, les Yverdonois. Et puis à la fin, t'as un pénalty qui finalement sort de nulle part avec à la 95e. C'est même pas là où le ballon tombe. C'est ça qui est frustrant pour Yverdon. C'est que ce contact entre Marquez et Buès, il est au deuxième poteau, là où il n'y a pas l'action de jeu. Et forcément, après, il y a eu une explosion d'émotions négatives côté Norvaudois.
Ouais, moi, je trouve que Marquezano, c'est intéressant, en fait. On sent son implication, son envie de gagner. Quand je repense à Sion, quand il tombe, il n'y avait pas du tout ces émotions-là, cette envie de se sauver à tout prix.
Il y a beaucoup, beaucoup de commentaires, d'ailleurs, sur YouTube. Je te laisse finir, mais beaucoup de gens qui parlent à Yverdon de la saison où Sion coule. Où ils disent c'était aussi Winterthur et on a tout fait, c'était aussi Tramezzani, c'était les arbitres qui avaient fait couler Sion, alors qu'en fait on sait très bien que c'est pas les arbitres qui ont fait couler Sion, enfin Sion s'est précipité un peu tout seul en challenge.
Mais là il y a une vraie envie de révolte, voilà. C'est vrai que les gens de Sion, ils se dépêchaient d'aller au McDo après le match.
Ça c'était gratuit, c'était drôle.
Non mais franchement on sentait vraiment qu'en termes d'esprit les gens étaient plus là, le groupe répondait plus, et puis là voir un Marquezano qui vient pourtant d'arriver, qui a pas une histoire folle avec le club, avec la région, je trouve que c'est assez à son honneur. Après sur les propos tenus, je pense que Le Pogam peut déjà gentiment réserver ses vacances. Il risque de plus jouer, même s'il y a un barrage, il risque de plus jouer cette saison.
Lucien ?
Toute la frustration, elle ne vient pas de nulle part. Hein. Évidemment, c'était un match hyper important, surtout que tu gagnes 2-0. À la chute de Senvisé, il n'y a personne qui attendait ça d'Yverdon, après la débâcle du dernier match contre Getzir. Et c'est vrai que quand tu vois les scènes qui se sont passées dans les 20 dernières minutes, comme tu disais, Giacomo, c'est hyper frustrant. Et là, il y a tout qui lâche, évidemment, quand c'est comme ça. Après, c'est toujours plus facile de gueuler sur l'arbitre que de prendre toi aussi qu'est-ce que tu as moins bien fait durant le match. Parce que oui, le premier penalty, je suis d'accord.
On va décortiquer. On va décortiquer.
Mais je comprends cette frustration quand même par rapport à la situation et et à l'enjeu de ce match.
Ouais, l'enjeu, le côté tendu de la fin de match ou des 20 dernières minutes dont tu as parlé aussi Giacomo, l'envie de révolte dont tu as parlé Hugo. Donc en fait, tout ça fait qu'à la fin, tu as ce genre de propos-là et tu as l'impression de t'être fait voler et d'avoir eu des décisions arbitrales contre toi. Est-ce que jusque-là, vous êtes d'accord avant qu'on décortique les pénaltys, les scènes?
Et pour moi, on peut même remonter à ce qui se passe quelques jours avant les Tsigrounes, parce que les arbitres, ils t'offrent rien, les Tsigrounes. Deux fautes de Tavares, le rouge, ben, c'est deux fois carton jaune, je suis d'accord, mais enfin, là, tu n'as aucun cadeau et ton match, il est crevé après 5 minutes. Et là, ben, encore une fois, tu as des décisions arbitrales qui sont contre toi. Donc, je pense qu'à un moment, ça a débordé. Surtout quoi, là, on sait qu'ils avaient préparé ce match en restant dans la région zurichoise. Voilà, c'était vraiment en mode mission. Bon, les gars, il y a eu 5-0. Maintenant, on a une autre finale. Et ben, la deuxième mi-temps, l'avance, tu penses que tu es à bout touchant. Et à la fin, ben, tu te fais punir de la manière la plus cruelle et surtout la plus difficile à digérer, comme on le voit dans les interviews.
Mais toi, tu dis que le pénalty tombe de nulle part. Mais je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Je trouve qu'on le sent vraiment venir. Ouais. Et
Je pense que la faute, elle vient de nulle part. Mais comme toi, ouais. J'étais sûr qu'il a. Ouais. En fait, à aucun moment, j'étais serein pour Yverdon.
Ouais, c'est clair.
J'étais là, à tout moment.
Il y a aucun changement aussi.
Ouais, alors parlons-en. On commence par ce choix de Tramezzani, ouais. si vous êtes d'accord, vu que tu y arrives. Ouais. Alors, moi, ce que j'ai adoré déjà, c'est enfin Sautier, le Pogam, dans ce match-là. Enfin, pour moi, ils devraient jouer tout le temps, ces deux-là. C'est les mecs qui ont l'expérience, qui soient finalement pistons ou latéraux, j'en ai rien à battre, mais c'est vraiment deux gars qui, en fait, ne sont même pas du coin, un peu comme Marquezano, et c'est les mecs qui te donnent vraiment cette sensation un peu de...
L'identité.
Oui, l'identité et la sécurité et l'expérience et tout ce qu'on n'a pas vu ces dernières semaines à Yverdon. Tout ce qui fait que finalement, il y avait très peu de points en énormément de matchs. Après, ma question, peut-être pour toi, Lucien, le coach, pourquoi, qu'est-ce qui fait que Paolo Tramezzani n'a pas opéré de changement? Quand tu vois que tes joueurs sont raides, qu'ils sont à l'agonie, que l'équipe souffre, c'est quoi la raison valable pour expliquer qu'il n'y ait pas eu de changement? Parce que pour moi, tu dois mettre des joueurs qui viennent simplement te remettre une batterie à 100% finalement. Tu n'as pas besoin d'un joueur qui sache faire telle ou telle chose. Tu n'as pas besoin d'un joueur qui sache te garder le ballon. Tu n'as pas besoin d'un joueur qui sache aller attaquer la profondeur. On s'en fiche. Tu mets l'intendant, tu mets un ramasse-bas. Ouais, juste d'accord. Un mec qui t'amène de l'énergie et de la force.
Ouais, bon là, après, ce qu'il aurait pu apporter, je pense, parce que là, il souffrait énormément, évidemment. Alors, c'est soit t'apportes un attaquant, un joueur offensif qui peut aller un peu plus presser.
Un Comano,
par exemple.
Voilà.
Ou alors, au niveau défensif, quelqu'un qui est là pour les duels de la tête au niveau des gabarits, puisqu'il y avait beaucoup de ballons dans les 16 mètres. Donc ça, c'est les deux choses qu'il aurait pu potentiellement apporter, qu'il n'a pas apporté.
Ouais, évidemment, bah, ça... Qui peut tenir le ballon, qui peut aller t'obtenir une faute à 30 mètres de
l'autre. Par exemple, bah, là, c'est plutôt le joueur offensif. Après, si tu veux vraiment apporter au niveau défensif, bah, t'apportes quelqu'un qui doit être présent dans le duel, puisque c'était beaucoup
mais
de longs
si
ballons comme ça.
Mais si t'enlèves juste le côté tactique, Lucien,
ouais.
Juste, est-ce qu'il ne fallait pas mettre des forces en fait, des joueurs...
Moi, j'irais encore ailleurs, je pense. Il aurait dû casser le rythme, comme l'a fait Ligano aujourd'hui.
Okay.
Tu casses le tempo, tu fais le changement, tu laisses l'excitation à Winterthur, parce que c'est eux qui doivent venir égaliser, et toi, tu calmes un tout petit peu les esprits. Et puis à ce moment-là, tu fais le changement, ou deux changements, je ne sais pas, hein, ça dépend. Hein. Et puis là, tu casses justement ce rythme. Et puis après, bah, évidemment, c'est aux joueurs qui rentrent de faire le nécessaire, les 2, 3, 4, 5, 6, 10 minutes qui te restent pour remporter ce match.
Ouais, là, c'est de la non-assistance à personne en danger, là, franchement. Tu sens, on le sent vraiment tout le long que ça va venir. Et en faisant rien, tu les laisses finalement s'écrouler.
Ouais,
quoi.
Ça coulait, ouais.
Giacomo, t'étais sur place.
Moi, il y a une part de moi qui comprend quand même ce choix de Paolo Tramezzani. À la fin, il est à un corner, il a 60 secondes de réussir son coup. Et puis, si hier, il gagne 2-1, tout le monde parle de sa défense à 3-5. Tout le monde se dit, mais en fait, il a laissé tout le monde. C'est parce que c'est ces 11-là qui lui ont fait la diff. Et je pense aussi à ce qui s'est passé sur ces dernières semaines. Quand il sort Marquezano pour Comano samedi dernier à Sion, ça se passe très bien. Ça se passe pas bien,
ouais,
pardon.
On lui le reproche.
Mercredi, il sort un peu Tavares de nulle part, hein, qui une semaine plus tôt était avec l'équipe 2 en première ligue classique à lutter pour le maintien. Il te tue au Letzigrund. Et donc là, t'as tes 11 quasiment forcés parce que hier, au coup d'envoi, les 11 meilleurs joueurs sont sur le terrain. Il y a le Pogatazar, il est pas là. Cespedes, il est pas là. Les 11 meilleurs joueurs disponibles sont sur le terrain.
Et franchement, tu fais une super première mi-temps. La deuxième période, tu es en train de faire le nécessaire, même si inévitablement, tu commences aussi à flancher. Et c'est dur, en fait. Je pense qu'il n'a pas osé risquer par peur de déstabiliser. Mais après, c'est clair qu'à la fin, on arrive là, on est obligé de pointer ça du doigt. Mais moi, il y a une part de moi qui comprend aussi, parce que selon moi, hier, sur le banc, c'était... Il n'y avait aucun pari qui... Même si à la fin, ce n'était pas une question de nom, mais il y a une part de moi qui comprend quand même cette décision de ne pas avoir osé faire ce changement.
On part sur ces pénaltys, parce que ça s'agite évidemment sur le chat. Tout le monde veut en parler, évidemment. Donc, si on part du premier, la faute de Bernard Denis, faute avec des guillemets.
Faute.
Pour moi, faute pour toi, pas faute pour toi.
Plus non que oui.
Plus non que oui. On revoit la séquence. Hugo, la parole est à toi.
Bah, pour moi, le Zurichois... Alors, je regarde les images, mais le Zurichois passe devant. C'est lui qui touche le ballon. Et Bernard Denis rate sa sortie et elle touche. Alors, je suis d'accord, le contact, il n'a pas un coup du lapin là-dessus. Ou... Je suis pas inquiet pour sa santé. Mais en fait, peu importe. Il y a un contact, il ne maîtrise pas sa sortie. Il est en retard et oui, pénalty. Il s'expose en tout cas à ce qui est pénalty et ce n'est pas une erreur manifeste. Donc pour moi, on ne peut pas venir corriger ça.
Ah bah pour moi, Gomis joue bien le coup. Ça, c'est sûr. Donc, l'attaquant. Mais pour moi, il n'y a rien du tout. Pourquoi ? Parce qu'on voit très bien que Bernard Denis ne fait pas un coup de genou, ne tape pas dans la tête de Gomis, rien du tout. Absolument rien du tout. Mais il joue très bien le coup parce qu'il saute juste un tout petit coup, l'attaquant, et il tombe. Et il se tient la tête. Et évidemment, bah, je crois qu'il n'y a même pas eu la VAR, rien du tout. Hein. Ils ont suivi, on est d'accord. Hein. Ils ont suivi la décision justement de ce pénalty. Ils ont tout de suite accepté ça. Mais pour moi,
c'est pas parce qu'ils sont pas appelés. Enfin, oui, la VAR a sûrement checké la scène.
Ouais, ça a été checké.
Elle n'a pas estimé nécessaire d'appeler l'arbitre.
Mais ça t'énerve.
Non, moi ça m'énerve. Ça, ce genre de pénalty, ça m'énerve. Pourtant, je suis attaquant. Hein. Et si j'en ai essayé d'en chercher, ben oui, ça fait partie de l'attaquant. Mais comme ça, là, cette situation là, oui.
Moi, ça me fait un peu penser au carton rouge qu'il y a eu un peu ces derniers mois ou la saison dernière aussi en Super League, quand un joueur de champ est dans la continuité de son geste et prend rouge parce que son pied termine sur la jambe d'un joueur. Et là, Bernard Denis, on voit qu'il ne sort pas les points au dernier moment sur Gomis. Il est déjà en train de sortir les bras tendus. Et à la fin, Gomis, il est malin parce qu'il vient un peu... Bah, il va aussi sur le ballon, il n'invente rien.
Il va devant, il va vers... gagne son duel et donc il est déséquilibré.
Mais il se met dans sa course. Il se met dans sa course.
Oui, mais quand, si on veut les deux aller prendre le ballon, moi, j'ai tout intérêt de passer devant pour récupérer le ballon.
Bah alors, si on reprend le cas aujourd'hui, je m'excuse de couper.
Mal. Hein. Non, c'est
mal aujourd'hui. Non, même Letizia ou mal, ok, mais Letizia avec le pied sur Doumbia, c'est la même chose alors.
Bah, il lui écrase le pied. Alors d'où de Lucerne, où Mal fait une faute, c'est là, à peu près le même.
Ouais, mais là il lui envoie bien le coup de poing. Tu vois quand même. Plus, ouais, tu le vois bien quand même.
Donc pour toi c'est trop léger.
Pour moi celui-là oui, celui-là c'est sûr.
Ouais. C'est pas le pire, c'est pas le pire de la.
C'est pas le pire. Ouais, on va y arriver. Bon là il y a beaucoup de réactions. Il y a ces penalty parce que c'est un Suisse alémanique qui attaque et un Suisse roman qui défend, etc. etc. Il y a que dalle. Hugo, carton rouge contre Hamel mercredi soir, c'est lui qui touche en premier Tavares. Faut être cohérent, bon Dieu. C'est un sport de contact, sinon on enlève tous les contacts, etc. 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 Vous êtes énormément, c'est incroyable. On vous remercie pour tous ces avis. On passe au penalty, enfin la faute suivante, c'est celle finalement qui a été retirée. Hein. Il y a pas penalty parce qu'il y a la VAR qui vient. Là aussi,
c'est clair.
Là, il y a penalty.
Voilà. Ouais. On y va. Allez-y.
Pour moi, c'est plus proche de la scène de Lucerne aujourd'hui avec Mal. Ouais. Pour moi, c'est clair. Encore une fois, il maîtrise pas sa sortie. Il rate et il vient percuter l'attaquant adverse. Donc là, pour moi, c'est une erreur manifeste.
Est-ce que tu ne penses pas qu'il compense justement, parce que la première situation, selon moi, peut-être selon toi aussi, est quand même plus légère sur Gomis, et peut-être que l'arbitre quelque part a une part de doute, il a beaucoup hésité à donner le pénalty ou pas, et là il se dit c'est quand même de nouveau pas hyper flagrant, donc pour moi il y a un phénomène de compensation sur cette.
Oui, mais la compensation ça veut dire que tu rajoutes une erreur pour enlever une première erreur, donc tu t'enfonces encore plus. Et là, en revoyant les...
On le voit souvent, non?
Oui, c'est humain, mais alors l'erreur est humaine. Non, et pour moi, c'est une erreur assez claire.
Très bon argument, ça.
Mais est-ce que ça pardonne, du coup, la première erreur? Parce que là, du coup, c'est vrai que pour moi, il y a deux erreurs.
C'est encore pire.
Ça fait deux erreurs, effectivement.
Non, ça en fait une, parce que la première scène est juste.
Pour toi.
Ah, mais pour moi, celle-là, elle ressemble énormément à Mal aujourd'hui. Mm-hmm. Exactement. C'est vraiment la même.
Là, c'est
l'inverse. Là, je suis d'accord. Là, pour moi, il y aurait pénalty. Après, on n'est pas arbitre, mais pour moi, là, il y a pénalty. Parce que là, il est clairement en retard et on voit, il tape dans Bus. Donc là, on voit, pour moi, clairement, c'est pénalty.
La troisième scène, peut-être
donc
celle
Yverdon qui a... Donc s'en sort bien quand même.
Yverdon s'en sort bien.
Pour contextualiser un peu.
Ouais, sur cette puis... deuxième.
Non,
sur,
pour tout le monde là.
Bah pour tout le monde pour l'instant.
Ouais. Sur la deuxième.
Absolument. Ouais, si... Si on se suit, effectivement, on est...
S'il n'y a pas eu le pénalty sifflé pour Buès quelques minutes plus tôt, là, c'est Winterthur qui doit se plaindre de cette situation.
Bien. Le troisième, pénalty, c'est la faute au deuxième poteau avec
Marquez
qui va finalement ceinturer son adversaire. Mais il faut le dire, oui, il le ceinture. En fait, on ne peut pas dire qu'il le ceinture un peu, il le ceinture beaucoup, il le ceinture modérément. En fait, il le ceinture. Moi, ce qui me dérange plus, c'est que le ballon, il n'arrive pas du tout dans cette zone du terrain. Donc, je trouve que c'est une faute bête.
Mais surtout à aucun moment, il regarde le ballon où il est. Et lui, il est dos au jeu, donc dos à son but, et l'attaquant est face au jeu. Et Buès joue très bien le coup, oui, parce qu'il tombe, évidemment. Mais à aucun moment, il regarde le ballon où il est. Et à un certain moment, si tu regardes le ballon, rien que le duel où il va atterrir, lâche-le, ton type. Ouais. Ou bien fais en sorte de te tourner, t'orienter, et puis tu le lâches. Et puis là, dans cette situation-là, évidemment, il joue très, très mal le coup, Marquez. Et là, il y a malheureusement...
Au contraire, Buès joue vraiment bien le coup. Il y a un angle qu'on n'a pas revu, là, qui est en...
C'est lui qui l'attrape.
Contre-plongée, où il l'emmène un peu. Il l'emmène un peu. Mais c'est de l'expérience, du vice, et toutes ces petites choses qui font que tu restes en Super League ou que tu tombes. Et puis là, en l'occurrence, c'est vraiment le métier... mais en fait, je suis d'accord avec toi, c'est Marquez qui se met dans une position de vulnérabilité qui permet à Buès d'en profiter, mais au début, il fait une double faute en perdant le ballon et son adversaire.
On va revoir toutes ces décisions ensemble. On a un clip qui vous résume tout ceci. Nous, on continue à en discuter parce qu'on a mis une loupe, on a essayé de vous expliquer au mieux les propos qu'on essaye d'aborder autour de la table. Giacomo, pour toi, ce dernier penalty, donc c'est pour toi...
C'est le pire. Ouais. Pour moi, c'est plus dur à digérer pour Yverdon parce que c'est 100% le mérite de Buès. Il attrape le bras de Marquez et il se ceinture lui-même. Enfin, pour moi, c'est dans le vice, c'est une masterclass de Buès qui fait parler toute son expérience. Mais enfin, Marquez, il est au duel et puis à un moment, il se fait attraper et il est embarqué. Mais il se le fabrique tout seul. Pour moi, vraiment, Buès, cette faute. Et c'est vraiment, comme l'a dit Hugo, c'est un joueur qui en a des matchs en Swiss Football League, il a l'expérience, il a déjà joué des maintiens, et là c'est extrêmement bien joué et très dur. Mais ce qui me dérange dans le coup de sifflet de l'arbitre, dans la décision, c'est que, en fait, Buès, il est là pour jouer le pénalty avant qu'il tire le corner.
C'est ça.
Il va même pas, il sait, bon là je vais essayer d'avoir le pénalty. Et l'arbitre, il doit savoir ça, il doit se dire, je vais avoir l'œil parce qu'il va essayer de gratter quelque chose. Et c'est ce qui se passe, et la preuve...
Mais d'autant plus que, moi j'irai encore plus loin, c'est qu'à la VAR, c'est visionné ça. Donc tu vois qu'il y a cet accrochage.
Mais c'est pas une erreur manifeste.
Non, je dis pas que c'est une erreur manifeste, mais tu dois avoir quand même ça dans un coin de ta tête. Tu dois te dire, ok, bon.
On va essayer de me duper. Ouais.
Voilà.
On va essayer de me duper.
Et moi, c'est ça un petit peu quand on parle, on dit l'esprit du football, et puis que des fois c'est pas dans l'esprit du football, etc., etc.
Mais sur le ralenti, vraiment, il tire Marquez au sol. Parce que moi, plus je vois le ralenti, plus je me dis c'est terrible parce que
et Marquez il a pas à avoir son bras sur la poitrine de Buès. En fait, en faisant ça, il est en retard et il se fait avoir, mais il se fait avoir par le métier de l'autre. Quoi.
Et c'est le dernier duel. Ça c'est fou. Ça c'est fou. En plus, il est remporté par Tijani. Hein. Il remporte le duel de la tête et derrière l'autre, il va nous faire une faute pareille.
Non, c'est qu'il a pas besoin pour récupérer une situation de dernier recours.
C'est fou. C'est fini. L'arbitre après c'est terminé. Tu gagnes 2-1. T'as tout réussi. Et là, malheureusement, tu t'encaisses ça.
Donc, à qui est-ce qu'il faut en vouloir? Parce qu'on a énormément de réactions.
Oui, bien sûr.
Si tu devais parler à un Yverdonois frustré, là, maintenant, à qui est-ce qu'il faut en vouloir?
Alors, en vouloir, là, dans cette situation-là, pour moi, c'est Marquez, clairement. Après, évidemment qu'eux, c'est l'arbitre. Pourquoi? Parce qu'il y en a trois à la suite en peu de temps. Ça, c'est normal. Mais... Là, pour moi, dans la situation-là, c'est clair que c'est Marquez. Non, l'avoir, pas l'avoir à l'arbitre, non, pour moi pas. C'est mal joué du défenseur, c'est tout, t'as pas à défendre comme ça. Tu sais très bien que s'il y a ton bras, tu sais jamais la force que tu vas vraiment y mettre. Et en plus, quand il tombe, il est encore dessous, etc. Donc, on voit très bien sur les images. T'as pas à défendre comme ça dans cette situation-là, c'est tout. Et il a pas... Ouais, il est mal positionné.
Giacomo, donc ce sera le contraire pour toi.
Mais moi, j'ai du mal à inculper Marquez, sincèrement. C'est normal qu'il soit sur son homme. Et après, c'est Buès qui l'attrape et qui s'attrape lui-même et qui tombe. Enfin...
Non, mais là, il est complètement dépassé. Il a le bras derrière lui, il est en déséquilibre, il tombe.
Il n'est pas là, le duel.
Il est complètement à la rue. Pour moi, malheureusement pour Yverdon, hein, je suis votre.
Mais il doit faire quoi, Marquez, du coup? Parce qu'il est sur son homme.
Tu restes à l'intérieur, tu le suis.
Son bras. Le ballon, il n'est pas du tout dans la zone. Ouais. Il n'a aucune urgence.
Mais c'est pas lui qui a le bras sur Buess, c'est Buess qui met le bras sur lui.
Non, le bras est là et Buess tombe dessus, mais le bras est déjà là à la base. Qu'en fait, Buess lui passe dans le dos et puis il essaye de le rattraper comme ça. Et après, il se fait emporter.
Ouais. Je sais pas. Giacomo, pas convaincu.
Moi, trois bonnes décisions, malheureusement.
Trois bonnes décisions pour Hugo. Là, on était plus sur du coup du 2-1.
Pas la première.
Et Giacomo, tu
Surtout la dernière. La première, je peux rejoindre Hugo presque, mais je comprends la frustration d'Yverdon.
Ouais. Je t'ai convaincu, tu peux le dire.
Hein ?
Je t'ai convaincu.
Non, c'est le ralenti. Ouais.
Bien. Je vous propose une toute petite lecture des commentaires pour qu'on puisse ensuite passer. Voilà, on a compris, Hugo, tu n'aimes pas Yverdon, sache qu'Yverdon ne t'aime pas. Alors, franchement, honnêtement, Hugo, voilà. Hugo vient de dire. Alors, tu t'es fait des ennemis à Genève la dernière fois que
C'est bien.
C'était à Yverdon. Mais honnêtement, je pense que c'est moi, ce que j'aime chez toi, c'est ta franchise et c'est ta lecture de chaque situation et le fait que tu n'aies pas froid aux yeux. Moi, ce que je pense qu'il faut que les gens sachent, c'est que c'est pas facile de venir s'asseoir sur une chaise et puis de venir donner son avis comme ça, donc faut respecter ça aussi.
Oui, mais puis je comprends tout à fait la rage, la déception, la tristesse des supporters qui maintenant Yverdon a appelé son destin en main. Il y a un match terrible qui les attend jeudi, ils vont
passer un début
de semaine vraiment compliqué. Donc
7 jours, tu passes de la 10e à la 12e place avec ton destin qui n'est plus entre tes mains. Si un mec est parti sur la lune ou sur une île déserte sans Wi-Fi, il y a un mois, il quitte Yverdon, qui joue plus pour aller plus haut que pour jouer contre la relégation directe. Là, il arrive aujourd'hui, mais il ne doit rien comprendre. Enfin, même depuis déjà jeudi et mercredi soir. C'est une dinguerie.
Alors, c'est clair. Par contre, personne ne s'attendait à un retour comme ça de Winter Tour, parce qu'ils étaient largués, mais largués. Et puis, ils ont su gagner au bon moment. Ils sont dans cette dynamique très, très positive. Donc, eux, je ne les vois pas du tout descendre. Mais après, on ne sait jamais. Hein,
mais Yverdon, comment tu expliques Yverdon? Moi, je suis incapable d'expliquer ça. Si on fait abstraction des décisions de samedi soir à la chute Saint-Vizé...
Si ils jouent ou ils avaient joué tous leurs matchs comme ils ont joué hier à Winter Tour, ils ne seraient pas là. Il ne serait pas dans cette situation-là.
Et qu'est-ce qui s'est passé entre je ne sais pas, moi, le moment où ils étaient 9-10e, enfin, presque accrochés à la 9e place, et aujourd'hui?
Où ils battent Winterthur à la maison et tout le monde
avec
se dit...
Avec le but de Baradji.
Baradji à 11 contre 10. C'est bon, c'est le but du maintien. Je crois qu'ils passent à plus 7, plus 8, plus 6. Enfin, ils ont une bonne marge. On se dit, c'est l'image. Enfin, ça va être l'image de la fin de saison de Winterthur, d'Yverdon, Baradji qui marque contre Winterthur et qui sauve les siens. Et à la fin, voilà, t'as dégringolé. Je pense qu'avant tout, ça a été un problème de valoriser tes prestations parce que souvent, ils ont eu des contenus aboutis en partie, aboutis et qui n'ont pas été bien payés. Mais souvent, voilà, je pense à la première mi-temps en condition où ils doivent plier le match. Même là, ils font une super première mi-temps à Winter Tour. Ils se prennent un missile. On n'a pas parlé du coup franc de Di Giusto. Mm-hmm. Le coup franc, il est beau. Ouais. J'ai l'impression de voir Cristiano Ronaldo à Manchester United. Mais voilà, ça arrive une fois dans la saison. Ça arrive au match décisif.
Tu me laisses en placer une. Moi, ça me rappelle un coup franc de Del Piero en Champions League contre le Dynamo Kiev. Il plante un but comme ça.
Il est extraordinaire. La frappe, elle est extraordinaire. Elle est pure. Bernard doit sans doute faire mieux, mais ouais, je pense que ça a été, après, une fois que tu n'arrives plus à gagner, tu commences à avoir la peur de gagner. On a vu ça samedi dernier contre Sion, on l'a vu dans une moindre mesure hier à la chute Saint-Vizé avec Paolo Tramezzani qui avait peur de changer quelque chose parce que le résultat il tenait et à la fin tu te fais avoir.
Mais il peut encore se sauver hein, parce qu'on parle de comme
ça. Fait, non, ouais. Moi j'y crois encore.
Ce sera jeudi, ce sera au stade municipal. On attend évidemment énormément de monde. Ce sera Zurich en face. Yverdon n'a plus son destin dans ses mains, mais il y a toujours la possibilité de se sauver. D'ailleurs, vous êtes plusieurs à dire il faut transformer cette rage en énergie positive. Évidemment, on se réjouit d'être au stade municipal pour voir comment Yverdon va aborder cette dernière rencontre. Je vous propose de parler un petit peu du FC Sion aussi quand même parce qu'on arrive bientôt au terme de cette émission-là. Sion qui s'est sauvé avant de jouer hier contre Getse grâce finalement au résultat de la chute Saint-Vizé. Je vous propose d'écouter d'abord Didier Tolo parce qu'il dit quelque chose de très très intéressant, surtout dans la toute dernière partie de cette interview, et puis on en parle ensuite.
J'avais dit qu'on y arriverait, je connais un peu ces situations, donc il faut rester calme, il faut rester serein, il faut rester dans la ligne, c'est ce qu'on a su faire. On n'a pas forcément été très, très, très beau à avoir joué, mais mais on a fait les points qu'il fallait et c'est ça qui est important aujourd'hui. Aujourd'hui, finalement, en 4 matchs, on a 8 points dans une situation qui est compliquée. Donc c'est je félicite les joueurs parce qu'ils n'ont pas tout fait juste, mais ils se sont battus.
C'est là où peut-être ce FC Sion a grandi, ce relegation group, ne pas perdre finalement, c'est déjà une sacrée avancée.
Oui. On a peut-être pris conscience que finalement il y a des moments où on a voulu être trop joueur. On a été peut-être un peu moins là, mais on a été pragmatique et c'est aussi ça le football.
Aujourd'hui, il n'y avait pas forcément la pression de l'enjeu, du coup, hein, mais on a senti quand même un FC Sion pas forcément dedans en première mi-temps. Qu'est-ce qui s'est passé à vos yeux ?
On n'était pas bon. On avait moins de mouvement, on n'avait pas assez de profondeur. On venait chercher le ballon. Donc, à partir du moment où on a mis beaucoup plus de mouvement, un peu plus de profondeur en deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux.
C'est ce que vous avez demandé à la pause, d'en faire plus devant aussi ce public qui en mérite plus ?
Non, mais on avait demandé. Moi, j'ai demandé qu'on voulait finir comme il faut parce que ce public il nous a toujours soutenus, il nous a très peu sifflé, il a toujours été là, il y a toujours du monde, il y a pratiquement tout le temps 10 000 personnes. Donc ça, on n'a pas le droit de lâcher un match comme ça, même si on était maintenu, on n'a pas le droit de lâcher par rapport à tous ces gens qui nous soutiennent et qui sont derrière nous, quoi qu'il arrive. Donc je suis content, je suis vraiment content que cette histoire, et je leur la dédie vraiment à eux.
La suite, c'est quoi pour le FC Sion ?
On verra, on va discuter, puis après on verra.
Voilà, cette petite dernière partie d'interview que je trouve très intéressante. Didier Tolo, toujours à Sion la saison prochaine, oui, non ?
Bon, après, en tout cas, lui, il a fait le job. Hein. Là, on ne peut rien lui reprocher. S'il part maintenant, tout le monde dira bravo à Didier Tolo parce que il les a fait monter, il les a fait maintenir. Donc, il a fait quelque chose de très fort à Sion. Et puis, il a réussi à emmener aussi ce groupe à rester en Super League. Donc s'il part maintenant, c'est chose faite. Après, évidemment, qu'est-ce qu'on lui demandera la saison prochaine s'il allait rester ? Peut-être qu'on, si tu veux vraiment, évidemment, demander un tout petit peu plus, c'est plus que le maintien. Ou alors tu gardes les pieds sur terre et tu dis tu vises le maintien. Mais pour moi, s'il part maintenant, il aura fait le job.
Hugo ?
On sent une lassitude. Il en a su parler en conférence de presse où il disait que les critiques de Constantin, qui a plusieurs fois dit on est dans la M, c'est la panique et il faut tirer la sonnette d'alarme. Je pense que lui, ça l'a vraiment fatigué. Ça l'a aussi, je pense, un peu déçu parce que je pense qu'il estimait maîtriser la situation, en tout cas avoir les ressources pour permettre au club de sauver, ce qu'il a prouvé. Donc j'ai un peu l'impression qu'il est au bout d'un cycle là et qu'il en a un peu marre. Ouais.
Sportivement, j'ai jamais eu l'impression qu'il a été à la rue, j'ai toujours eu l'impression qu'il maîtrisait son sujet, effectivement, et les déclarations dans la presse, et peut-être aussi ce qui est jamais sorti dans la presse, ça l'a effectivement un peu usé, j'ai l'impression.
Je pense que c'était un des entraîneurs sur les dernières saisons à Sion où j'ai eu le plus confiance en cette équipe, où je sentais moins le doute s'installer, peut-être par sa communication, mais aussi par la situation de Sion, même quand il y avait des phases de moins bien, que ce soit quand ils jouaient la montée. Alors ça a été presque tout bon en Challenge League, mais il y a quand même eu des moments où ils ont douté avec ce mano à mano avec Toon. Et cette saison où ils devaient se sauver, c'était parti très fort, ils disaient de pas s'emballer, ils ont eu un coup de mou, est-ce qu'ils jouent le maintien? Il y avait les déclats, tu l'as dit Hugo, du président de la presse, lui il est resté tranquille, les pieds sur terre, il disait même je sais que je suis à Sion, quand on lui demandait sur son avenir, il disait ouais je sais que je suis à Sion, et puis à la fin il a fait le job. Donc moi je pense que si je suis le club, évidemment, je lui fais confiance. Après, avoir, comme disait Hugo, c'est possible que lui, il ait envie aussi de faire autre chose. Il a rempli sa mission, finalement.
Mission accomplie pour Didier Tolo. Merci beaucoup, Giacomo, d'avoir participé à ce débat. C'était riche, comme d'habitude, Hugo. Merci encore infiniment pour ton franc-parler. Merci à toi, Lucien.
Merci, Dani.
Pas de match après match dimanche prochain, puisqu'il n'y a pas de Super League dimanche prochain. On revient le 1er juin pour la dernière de la saison. On parlera évidemment de la finale de la Champions League et de la finale de la Coupe de Suisse. D'ici là, portez-vous bien. Très bonne fin de dimanche et à bientôt. Ciao.